Bonsoir à tous. Je vais commencer par une question bizarre. Si vous deviez être un animal, vous auriez choisi d'être quoi ? Un lapin ? Un lion ? Une panthère ? Un éléphant ? Un hippopotame ? Il y a tout plein de choix. Hein. On va lire l'histoire de quelqu'un qui a choisi d'être autre chose. Une brebis. Qui choisirait d'être une brebis ? Qui aurait choisi ? Personne. Personne ne me l'a cité. C'est marrant, hein ? C'est un bon test. Le test est conclu. Psaume 23. Et oui, parce que pour commencer par dire « L'Éternel est mon berger », ça sous-entend quand même que l'auteur de ces paroles se compare, lui, à une brebis. C'est logique, hein ? Bon. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Je m'arrête là pour l'instant. J'ai regardé un peu sur Internet. C'est beaucoup. Maintenant, on n'a plus d'encyclopédie chez nous. On regarde sur Internet. On regarde souvent sur les mots du dictionnaire. Là, je dis, tiens, je vais regarder un peu ce qu'on dit sur les brebis, sur les moutons, etc. Et j'ai appris deux, trois petites choses qui sont intéressantes. On voit que c'est un animal, bon, ça, il n'y a pas besoin d'être un grand savant pour s'en rendre compte, c'est un animal très craintif. C'est un animal très craintif, et quand il a peur, il a un instinct qui va faire qu'il va chercher ses congénères. Ça s'appelle, le mot-clé, c'est grégaire, un instinct grégaire. Ça veut dire que quand une brebis a peur, elle va chercher du refuge auprès des autres. Et c'est comme ça que le troupeau, finalement, se forme. Et c'est comme ça qu'un berger peut même être en mesure de laisser son troupeau dans un enclos qu'il connaît bien et de le laisser tout seul. Parce que finalement, les brebis, elles ont peur. Et comme elles ont peur, elles restent ensemble. C'est la peur qu'il a qui fait que finalement, elles restent ensemble. Il y a plusieurs espèces qui sont comme ça, et c'est de la même manière qu'on peut observer des fois dans le ciel des oiseaux qui volent en nuages. On a l'impression de voir des nuages qui se déplacent. C'est magnifique à voir, il y en a un qui change de direction, puis on voit finalement tout le reste qui bouge en même temps, c'est super beau. Et finalement, les brebis font partie de ces animaux qui, dans les sentiments de crainte, de peur, ont besoin d'aller se retrouver auprès des autres. Et il y a un enseignement qui est très très beau envers nous, qui faisons partie de l'Église, c'est que le Seigneur, il bâtit l'Église, il veut qu'il y ait l'Église pour que justement celui qui a besoin, il va pouvoir aller auprès des autres. Parce que ça va devenir, pour l'enfant de Dieu, c'est aussi un réflexe. C'est un réflexe, et pour toi peut-être qui ne fais pas partie du peuple de Dieu, eh bien, c'est moins facile. Mais l'enfant de Dieu, il a ce réflexe qu'il sait qu'il va pouvoir ainsi, dans un moment difficile, dans un moment compliqué, il va pouvoir trouver auprès des frères, des sœurs, des personnes à l'écoute, des personnes qui seront là autour pour aider, pour donner des exhortations, pour faire du bien. Il sait qu'il va pouvoir trouver des personnes qui n'auront pas de mauvaises idées, de mauvais calculs, des gens qui ne seront pas calculateurs. C'est ce qu'on est censé trouver dans l'Église, c'est ce qu'on est censé trouver chez les frères, chez les sœurs, chez qui l'amour de Dieu doit être prépondérant. Ça doit être, c'est finalement, si nous sommes des pierres vivantes qui faisons partie de l'Église, ce qui relie les pierres, c'est le ciment de l'amour. Et finalement, les brebis, quand elles ont peur, les brebis du Seigneur, quand elles ont peur, elles doivent pouvoir se retrouver auprès du troupeau. Elles doivent pouvoir aller se réfugier auprès du troupeau, parce que c'est là qu'elle trouvera, eh bien, ce dont elle a besoin pour calmer ses peurs, calmer ses craintes. Et ici, le roi David, eh bien, on voit, c'est écrit à la première personne, mais je vous êtes aussi d'accord avec moi qu'il n'y a pas de troupeau d'une seule brebis. c'est David qui écrit ces choses. Et finalement, le psaume est bien écrit parce qu'on peut tous le dire. Si on le dit tous ensemble, ah, on est le troupeau. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Est-ce que ce soir, tu peux le dire? Tu peux l'affirmer? Est-ce que tu peux le dire? L'Éternel est mon berger. On a chanté juste avant le Dieu qui est le chef, qui est celui qui donne sa vie, celui qui est couvert de blessures pour ceux qu'il aime. Ce chef couvert de blessures, on va le lire un petit peu tout à l'heure. Celui qui donne sa vie. Ici, David, il a pris une décision dans son cœur. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il sait où ce berger le conduit. Il l'a choisi. D'autres traits de caractère, des brebis, ça je l'ai appris en le lisant, elles ont une très bonne audition. C'est le sens le plus développé. C'est curieux, hein ? Parce que pour nous qui sommes chrétiens, on voit que la foi vient de ce qu'on entend. Quel hasard que nous soyons comparés à des brebis. C'est l'organe le plus développé. Le Seigneur, d'un point de vue spirituel, parle à notre organe le plus développé. Notre vue nous a bien sûr, bien souvent, fait défaut dans notre vie. On pensait voir certaines choses et on a pris une mauvaise direction. Pourquoi ? Parce qu'on ne voit pas bien. Il y a un proverbe qui dit que l'homme ne voit pas plus loin que le bout de son nez. C'est bien vrai, parce qu'on n'est pas capable de regarder au-delà. Et finalement, celui qui écoute, celui qui reçoit ce qu'il entend, les conseils, il va y réfléchir, il va peut-être mettre un peu plus de temps, mais il va prendre des décisions qui sont bien différentes. La brebis voit pas très bien. Par contre, elle entend bien. Et ici, le roi David, dans ce psaume, il écrit ceci, « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » À cause de son nom. Il veut nous restaurer. La restauration, c'est quand on a été détruit. C'est quand on a été ruiné. Si vous voyez un chantier de restauration d'un vieux monument, c'est parce qu'il est actuellement en ruine qu'il est en restauration. Ou alors, c'est parce qu'il n'est pas loin. Alors, on le restaure. Dans quel état est ton âme ce soir ? Est-ce que tu es venu ce soir avec de la tristesse dans ton cœur ? Est-ce que tu es venu, comme on dit, la tête dans les chaussettes parce que ça va pas ? On a tous le droit d'avoir un jour sans. Après, il faut pas que ce soit tous les jours sans. Le chrétien, il n'est pas censé avoir des jours que des jours sans. Bien au contraire. Et nous, qui sommes chrétiens, c'est là le privilège du chrétien, il peut le dire, il peut l'affirmer, il restaure mon âme. Et ce n'est pas écrit, il va restaurer mon âme, ou il a restauré mon âme. C'est écrit, il restaure mon âme. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand j'en ai besoin, je peux faire appel à lui, et il va me faire du bien. Comme David, qui écrit quelques psaumes avant, il est dans une incompréhension, et il dit, jusqu'à quand Éternel ? Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? Et à un moment donné, il réfléchit, il rentre en lui-même et il se dit « Mais non, c'est pas ça que je veux regarder. C'est que le Seigneur, il peut me donner, il peut me faire du bien s'il le veut. » Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit à la fin du psaume. « Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. » C'est le psaume 13 que je vous paraphraser. Mais David avait cette conscience dans son cœur que quand il n'allait pas bien, eh bien, il pouvait être auprès de celui qui allait restaurer son âme. Peut-être que tu te dis même parfois que quand tu analyses ton propre comportement, que tu n'es pas fier de toi parce que tu as fait des choses qui te font honte, des choses dont tu n'oserais même pas le dire, tellement ces choses-là te répugnent. Toi qui prônes peut-être de dire la vérité, tu te rends compte que tu as menti. Et peut-être des mensonges qui sont graves. Peut-être toi qui affiches une façade qui est bonne. Peut-être que dans le secret, tu regardes des choses dont tu as honte. C'est peut-être le cas. Et que tu te dis, mais avec ce que je fais, comment Dieu pourrait-il m'aimer ? Eh bien, ici, ce psaume, on le voit, il est prêt à nous restaurer, pas à cause de nous, mais à cause de son nom. Et je crois que cette parole devrait nous suffire. Pour compléter, on pourrait faire un petit saut dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 43, et le verset 25, qui doit, pour nous, être comme une ancre sûre et solide, sur laquelle on peut s'appuyer, et qui doit nous permettre de réaliser qu'on a accès à Dieu. On a accès à Dieu. Et qui que tu sois, si dans ton cœur, il y a quelque chose qui ne va pas dans ton cœur, si tu as honte de certaines choses que tu fais, mais que tu désires dans ton cœur être délivré, sache que Dieu t'aime. Et s'il veut te conduire dans les sentiers de la justice, c'est pas parce que tu as fait ça bien et ça bien. C'est parce qu'il est fidèle à ce qu'il a dit, à son nom. Nous lisons dans Ésaïe, c'est moi, qui efface tes crimes pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Le texte est très clair. L'amour de Dieu, il est désintéressé. Et même s'il a en horreur le péché, et la parole nous dit que tous ont péché, il n'y en a pas un seul qui pourrait dire qu'il peut avoir accès au ciel par ses propres forces. C'est impossible. La Bible est très très claire sur ce sujet et elle dit que tous ont péché. C'est écrit dans la parole. Et David ne faisait pas exception à la règle. Alors, David, lui, il faut savoir que quand il écrit ses paroles, Jésus-Christ n'est pas né, il y a tout un tas de choses qui ne se sont pas encore passées, et finalement, on voit dans le cœur de David quelque chose qui est grand quelque part, parce qu'il arrive à imaginer, il a étudié la loi de Dieu, il la connaît, et malgré la loi qui dit « fais ceci, fais cela », etc., il a réussi à discerner malgré tout que si Dieu donne des conseils, c'était pour son bien. Et donc, si Dieu lui voulait du bien, c'est parce que Dieu est bon. Il avait compris que Dieu est juste, mais il avait aussi compris que Dieu était bon. Or, la règle de la foi, la vie par la foi, elle est valable aussi dans l'Ancien Testament. C'est l'Épître aux Hébreux qui peut nous en convaincre éventuellement, qui cite des exemples de l'Ancien Testament. Donc des hommes, des femmes, qui, malgré peut-être leur faiblesse, se disaient dans leur cœur, mais si Dieu il existe, il doit aimer les hommes quand même, s'il les a créés. Quoi de plus normal que d'avoir cette pensée toute simple ? Comment quelqu'un pourrait se prendre en dégoût de ce qu'il a créé ? C'est pas possible. Si Dieu existe, eh bien, il nous aime, ça peut pas être autrement. Des parents qui ont des enfants qui font du mal, ils aiment quand même leurs enfants. Et ils sont malheureux de les voir où ils sont. Même quand bien même ils seraient en prison, les parents, quel est leur sentiment intérieur ? Ils se disent, ben, c'est bien fait pour lui. Je pense que chez un père, une mère sincère, ils ont une grande tristesse dans leur cœur d'avoir vu leurs enfants mal tourner. Et c'est ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Et ça, David l'avait compris. Et ça, David, il avait compris, il avait vu en Dieu, il avait vu dans la loi de Dieu quelque chose comme un guide. Et il avait reconnu en Dieu un berger. David, il a été roi, certes, mais avant d'être roi, il était berger. Et il avait su se comparer à l'une de ses brebis, dont il a eu la charge, peut-être. Je pense que quand il dit ça, peut-être qu'il a pensé à Amanda ou Marguerite, j'en sais rien. Mais David se compare à une brebis, un être sans défense, un être qui a besoin de se retrouver avec d'autres pour se sentir en sécurité. J'ai appris aussi en regardant sur les brebis que quand le troupeau part, il ne fait que suivre la première. Ou ne suivre l'animal qui a pris, entre guillemets, une autorité, mais qui vient de nulle part. Et c'est de cette manière que les hommes ont compris qu'ils pouvaient domestiquer facilement. Parce qu'à partir du moment où une brebis est capable d'entendre, on apprend aussi qu'une brebis, à la fin, est capable de reconnaître son propre nom. Ça tombe bien. On va aller regarder dans Jean 10 ce qui est écrit. Comme quoi la Bible, elle n'a rien inventé. Elle dit des vérités qui existaient déjà, que Dieu avait établies, en créant même les animaux. Il avait prévu que les brebis seraient capables d'entendre leur propre nom. Et Jésus, lui, il se compare à ce berger. David, sans le savoir, il établit là une belle comparaison entre Dieu et un berger. Et dans le Nouveau Testament, on voit que Jésus reprend cette image et il le dit. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre point par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par un autre côté, celui-là est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les mène dehors. Dans la même bergerie, je ne sais pas si vous réfléchissez à ce qu'on vient de dire, c'est un peu caché, mais dans la même bergerie, il y a des brebis qui appartiennent au berger et il y a des brebis qui n'appartiennent pas au berger. Il est écrit, il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les mène dehors. Alors, quelles sont celles qui lui appartiennent, finalement ? Mais on le lit dans la suite. Lorsqu'il a fait sortir toutes celles qui lui appartiennent, il y a quand même une insistance, il marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. C'est au son de la voix du berger. Que dit le berger pendant qu'il conduit le troupeau ? On ne sait pas. Mais toujours est-il que c'est au son de sa voix que le troupeau suit le berger. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Donc les brebis qui appartiennent au berger sont tout simplement celles qui ont appris à connaître sa voix. Cette voix qui te dit peut-être ce soir, viens à moi, toi qui es fatigué, toi qui es chargé, toi qui as des soucis, toi qui as besoin de faire une expérience avec Dieu, toi qui peut-être réalise ce soir que tu ne fais pas en partie de la bergerie, toi qui peut-être ce soir n'as pas cette assurance d'être sauvé, qui n'as pas cette assurance d'aller vers ces verts pâturages que Dieu a préparés. Est-ce que dans ton cœur, tu peux le dire ? Est-ce que tu peux le dire ? Il est mon berger et il me conduit dans les verts pâturages. Oui, il voudrait te conduire, mais est-ce que tu le suis ? Est-ce que tu suis le troupeau ? Est-ce que tu as pris la décision d'aller vers le berger et d'apprendre à savoir ce qu'il te dit ? Alors, qu'est-ce que dit Jésus ? Si on continue simplement ce qu'il dit, on va retrouver un peu ce qu'on a vu dans les chants, tout simplement. Verset 6, Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera des pâturages. Là, on retrouve le psaume 23 dans ce verset. Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. On avait l'image du chef guerrier qui a tout donné pour ses soldats. Et ici, on a la même chose, avec une image différente. Ce berger qui donne sa vie pour ses brebis. Jésus, Dieu, t'a tellement aimé qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Si dans ton cœur ce soir, tu crois que Jésus est mort sur cette croix pour que tu puisses être sauvé, alors tu peux venir à lui. C'est la première voix, quelque part, que tu peux entendre. Je t'aime. Et j'ai donné ma vie pour toi. À l'écoute de cette voix, quelle est ta réaction? Est-ce que tu reçois cette voix-là? Est-ce que tu entends, tiens, c'est la voix de Dieu? Ou est-ce que tu méprises cette voix-là qui te dit qu'il y a de la vie pour toi si tu le veux? Il faut suivre cette voie-là, par laquelle tu pourras obtenir la vie éternelle par la foi en ce qu'il a fait. Le Seigneur Jésus est celui qui est descendu de son ciel. Il est venu marcher parmi les hommes. Il est venu ouvrir un chemin sur lequel il a marché. Il a montré la voie. Et il est venu montrer tout son amour envers les hommes, envers les femmes. Il a tout donné, jusqu'à la dernière goutte de son sang, parce qu'il t'aime. Et je le dis en tutoyant parce que c'est personnel. Comme on l'a lu dans le psaume 23, il a donné sa vie. C'est le berger qui, peut-être si tu es perdu, a tout fait pour venir te chercher. On peut le lire, c'est dans Luc, au chapitre 15. Peut-être es-tu dans cette situation. Peut-être faisais-tu partie du troupeau et que tu as voulu regarder à droite et à gauche. Les brebis voient très bien sur les côtés. Elles peuvent être facilement distraites. Ça tombe bien, ça nous correspond aussi. Et peut-être t'es déjà tu engagé à marcher avec le troupeau et t'es-tu laissé distraire. Tu t'es perdu. Tu t'es retrouvé agrippé à un buisson épineux, tu t'es retrouvé accroché et tu as peur que le loup vienne te dévorer. Je plaisante pas. L'image est biblique. Et on a peut-être que dans ta folie, tu es tombé dans une crevasse et tu ne sais pas comment t'en sortir et tu as besoin que le berger vienne te chercher. Il n'y a pas d'autre issue. Et là, tu cries. Le berger, il ne te trouvera que si tu cries. Sinon, il ne te trouvera pas. C'est aussi au son de ta voix qu'il pourra te repérer. Est-ce que tu cries à lui? Ou est-ce que tu restes là où tu t'es perdu, mais que tu persistes à essayer de trouver une solution? Si tu ne cries pas à lui, il ne pourra pas venir à ta rencontre. C'est tellement simple quand on comprend l'image. Une brebis qui ne crie pas, on ne peut pas la repérer. Il faut crier à lui. Ici, on a cet exemple. Verset 4, « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle chez lui ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » Vous voyez, avant, c'est vrai qu'en lisant ce verset, je me disais, le berger, il est inconscient de laisser son troupeau comme ça. Et quand on sait que finalement, le troupeau, quand il reste ensemble, eh bien, il y a une certaine forme de sécurité qui demeure, eh bien, il peut le faire, d'autant plus que 99, c'est un gros troupeau déjà. Et il peut se permettre de faire de telles choses dans un désert. Le désert, c'est justement un endroit où il y a la sécurité, parce que il n'y a pas d'endroit caché, donc il voit de loin venir celui qui va faire du mal. Donc la visibilité est bonne, le troupeau est bien rassemblé, il peut laisser le troupeau. Et il peut aller chercher celle qui est perdue. Et en ce qui te concerne, peut-être es-tu dans cette situation et que tu te sens perdu, tu te rends compte que tu as pris une mauvaise direction et que tu te retrouves en mêlée de tout un tas de choses. Et que tu voudrais t'en sortir. Alors là encore, si dans ton cœur, tu désires revenir au bercail, eh bien, il te faut crier à Dieu. Et si tu cries à Dieu, de tout ton cœur, tu lui demandes pardon, tu t'approches de lui, il est prêt à te pardonner, parce qu'il t'aime toujours autant. Regardons la fin du psaume 23. C'est intéressant, parce qu'à partir de ce moment-là, je ne sais pas si vous y aviez déjà fait attention, mais il commence à tutoyer son berger. Alors qu'avant, il parlait du berger à la troisième personne. Il disait, l'Éternel est mon berger, il me fait reposer, il restaure mon âme, il me conduit. Voilà, c'est un fait établi. À partir de maintenant, on entre dans la relation personnelle. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. La fin de ce psaume, il y a plusieurs étapes. Le verset 4 nous parle de l'épreuve, que celui qui... de la sécurité. Voilà. La sécurité qu'on a à suivre le berger, là où il nous conduit. Même si le sentier peut être ombrageux, même si le chemin peut être dur par moments, le fait que le berger nous précède, le fait que mon berger me précède, j'entends ta voix, Seigneur, et tu me parles, tu me fais du bien, tu restaures mon âme, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. On peut imaginer aussi cette brebis qui est sur le dos du berger. Des fois, j'ai lu aussi que des fois le berger, pour conduire le troupeau, il prend exprès un agneau dans ses bras pour attirer l'attention de toutes les brebis qui le suivent naturellement, du fait qu'il a un agneau dans ses bras. L'image est belle, mais on voit aussi que cet agneau, il a une position privilégiée, il est dans les bras du berger. Qui veut être dans les bras du berger ? Ici, on peut imaginer cet agneau dans les bras du berger qui dit « Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je suis tout contre toi, contre ton cœur. Je ne crains rien. » La sécurité, elle est auprès du Seigneur. Elle n'est pas ailleurs. Elle n'est pas à chercher à droite, à gauche. Et malheureusement, c'est ce qui nous tente tous de vouloir trouver toujours des solutions à droite, à gauche, essayer de s'imaginer des plans, de faire des calculs, au lieu d'apporter des fois les choses au Seigneur et d'avoir ce temps précieux avec lui, tout contre lui, contre son cœur, où il va pouvoir nous donner tout ce dont on a besoin. Il va pouvoir nous faire du bien. Il va pouvoir balayer nos inquiétudes. Il va pouvoir nous faire ressentir tout son amour. Mais c'est contre son cœur qu'on va pouvoir expérimenter ces choses. Je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Vous avez vu que ce n'est pas marqué « tu es devant moi ». Là, tu es avec moi. On a une proximité qui est déjà différente. Comme si la brebis était vraiment contre le berger. Ensuite, l'image change. Il n'est plus question de berger, il est question de l'inviter. Il nous invite. Il nous invite. Jésus, c'est ce chef d'armée qui a tout donné pour ses soldats. C'est ce berger qui conduit son troupeau. Et c'est aussi ce roi qui t'invite. C'est ce roi qui t'invite. Et l'image ici est très belle aussi, parce que alors que le diable cherche à t'accuser, toi qui as décidé dans ton cœur de suivre le Seigneur, de suivre le berger, d'écouter sa voix, pas seulement d'entendre sa voix, mais de la recevoir dans ton cœur, de te mettre à obéir, de t'approcher de lui, de crier à lui, d'avoir cette relation avec lui, alors tu fais partie de ceux que le roi va inviter. Et ce psaume, il ne dit pas au hasard « Tu dresses devant moi une table et tu oins d'huile ma tête. » À l'époque, quand un hôte recevait un étranger, il faisait deux choses. Il l'oignait d'huile, c'était une manière d'accueillir. Il lavait ses pieds, il l'oignait d'huile, le parfumait sa tête et lui servait à manger. C'est tout simple. L'image est toute simple parce que David, quand il écrit ces choses, c'est ce qu'il faisait, c'est ce qu'il pratiquait quand un étranger venait le voir. C'est ce qu'il faisait naturellement. Et finalement, on pourrait presque dire qu'il n'a pas cherché beaucoup pour dire ces paroles. Mais c'est tellement simple que c'est beau. Et finalement, le roi, qui a tout donné pour nous, non seulement il a donné sa vie pour nous qui étions des pécheurs, qui étions comme des mendiants, il est venu nous chercher, il nous a tendu la main et il nous invite à un grand repas dans le ciel. Et il nous invite à un grand repas, ce qu'on appelle le festin des noces de l'agneau. Jésus revient bientôt. Il revient chercher ceux qui lui appartiennent. Est-ce que quand il va venir dans cette bergerie, est-ce que tu vas faire partie de ceux qui partiront ? Est-ce que tu fais partie de ceux qui connaissent sa voix et qui pourra partir ? La question est importante parce qu'il ne faut pas sortir de ce lieu sans savoir. Il faut savoir où tu vas. Il faut savoir où tu vas. Il faut te positionner. Et dans la parole de Dieu, on voit cette urgence. J'aimerais quand même qu'on le lise ensemble dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4. Et vous verrez que si j'insiste de cette manière, c'est parce que Dieu insiste. S'il venait à revenir ce soir, est-ce que tu es pris ou est-ce que tu es laissé sur le côté ? Est-ce que tu fais partie du troupeau ou pas ? Hébreux, chapitre 4. Craignons donc, tant que la promesse d'entrer dans son repos subsiste, actuellement elle subsiste, que personne parmi vous ne pense être venu trop tard. Je le dis à tous qui sommes là, pour l'instant on est tous à l'heure. Car la bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qu'ils avaient écoutée ne leur servit de rien, car ceux qui l'entendirent ne la reçurent pas avec foi. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos dont il est dit, j'ai donc juré dans ma colère, ils n'entreront certainement pas dans mon repos, ceux qui ont refusé. Mais au verset 7, on lit cet appel. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant bien longtemps après, par la bouche de David, comme il a été dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si vous entendez la voix du berger, cette douce voix qui veut vous porter contre son cœur, qui veut vous porter sur les épaules quand vous êtes fatigué de la marche, ce berger qui a ce regard perçant, qui sait voir quand une brebis est malade, qui sait voir quand une brebis s'est blessée, qui sait voir quand quelqu'un a simplement besoin de réconfort, ça c'est le privilège des brebis du troupeau. Si tu ne fais pas partie du troupeau, tu ne peux pas bénéficier de toute cette attention. Tu ne peux bénéficier que de cet appel. Rejoins le troupeau, parce que Dieu désire te faire du bien. Il désire te conduire. Il désire te conduire. Il désire t'amener là où tu goûteras le repos de Dieu, dans une demeure qu'il a préparée spécialement pour toi. Jésus l'a dit aussi. Je m'en vais vous préparer une place. Ma place n'est pas la même que celle de Manuela, n'est pas la même que celle de Jérôme ou de Béatrice ou de n'importe qui a donné son cœur au Seigneur. On a chacun une demeure personnalisée. Et je crois qu'on sera même émerveillé de voir avec quelle attention il aura tout préparé, le moindre détail qui va nous faire plaisir. On aura tous des maisons différentes, mais il s'y prend avec soin. Il nous veut auprès de lui, il veut vraiment nous entourer de son amour. Ce soir, qui va refuser cet appel de la grâce, cet appel de l'amour de Dieu, qui cherche à sauver, à faire du bien ? J'aimerais qu'on se recueille quelques instants. Et j'aimerais faire un court appel. Peut-être que jusqu'à présent, tu n'avais pas réalisé à quel point Dieu t'aime. Peut-être jusqu'à présent, tu n'avais pas réalisé que la Bible, ce n'est pas une suite de règles et d'ordonnances, mais que c'est l'expression même de l'amour de Dieu et qu'à travers tout ce que tu peux y trouver, ce ne sont que des conseils pour que tu sois bien et que tu ne l'avais jamais compris jusqu'à présent. Tu n'avais jamais compris que tout ce que Dieu dit, c'est pour ton bien, c'est pour que tu sois heureux finalement. Tu la voyais comme une liste de règles et tu n'y comprenais rien. Peut-être que ce soir, tu réalises, tu commences à comprendre que finalement, l'amour de Dieu est toujours là et qu'il t'aime personnellement. Aussi, j'aimerais juste te demander d'exprimer ce cri. Peut-être tu es perdu. Peut-être tu ne fais simplement pas encore partie du troupeau. Eh bien, si tu veux crier à Dieu, fais cet acte de foi, lève la main. Je ne demande pas ça pour savoir si ma prédication a réussi ou pas. Je veux simplement susciter un acte de foi. Je le fais pour que tu puisses, alors que peut-être le combat fait rage dans ton cœur, que tu puisses devant Dieu, entre toi et lui, que tu puisses lever la main pour qu'il puisse la saisir, qu'il puisse saisir ta main. Toi, tu es peut-être dans la crevasse. Lève ta main qu'il la saisit. Le Seigneur te voit. Tu peux baisser la main. Le Seigneur veut saisir ta main. Il veut te sortir du trou. Il veut te faire du bien. Il veut te mettre contre son cœur et t'entourer de ses bras, de sa grâce, ses bras d'amour. Est-ce que quelqu'un d'autre veut lever sa main et faire appel à Dieu ? C'est pas à la réponse de Jonathan Guyot qu'on lève la main. C'est devant Dieu. C'est un appel qui vient du cœur. Je vais prier. Seigneur, tu as vu la main qui s'est levée. Tu as vu cet appel qui implore Dieu. Tu as vu cette personne, cet ami qui implore ton secours. Seigneur, je te prie pour que par ton esprit, il y ait une action de Dieu dans sa vie. Que tu puisses restaurer comme on l'a lu. Tu restaures l'âme. Tu es celui qui fait du bien, qui entoure de ta grâce. Tu es celui qui va chercher celui qui est perdu. Tu es celui qui panse les plaies et les blessures. Parce que toi, tu avais déjà tout donné. Seigneur, nous te rendons grâce parce que si nous sommes là ce soir, c'est aussi parce que tu as agi de même envers nous. Je te prie, Seigneur, pour que ce soir, personne ne reparte de ce lieu sans savoir où est-ce qu'il va. Seigneur, merci, Seigneur, pour ta parole qui nous réconforte. Merci pour ces paroles, Seigneur, qui sont comme un baume sur notre cœur. Nous savons que nous pouvons nous approcher de toi. Seigneur, je te rends grâce et je te dis merci. Gloire à ton nom, Seigneur. Amen.